Témoins du chemin. Une émission réalisée par Domitil de Vevey.
L'expérience, l'aventure de ce pèlerinage est juste extraordinaire.
Parce qu'en fait, on n'est jamais autant libre que sur ce chemin. On est d'une liberté absolue.
On s'aperçoit vite que tout est beaucoup plus simple que dans notre vie de tous les jours.
Quand on revient de Saint-Jacques, on n'est pas indemne.
Souvent, les randonneurs partent marcheurs et arrivent pèlerins.
En tant que médecin, je dirais que ça serait vraiment une bonne chose à mettre sur certaines ordonnances. Pèlerinage à Saint-Jacques, matin, midi et soir, pendant 2 mois, c'est formidable, quoi.
Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas, disait déjà le sage chinois Lao Tzu, 4 siècles avant Jésus-Christ. Alors pour franchir ce pas, votre émission Témoin du chemin vous donne les clés pour partir sur les chemins de Compostelle. Dans les épisodes précédents, nous avons déjà détaillé l'histoire du pèlerinage de Saint-Jacques. Nous avons aussi découvert les différentes voies existantes pour rejoindre la ville de Saint-Jacques de Compostelle. Nous avons vu aussi qu'il n'y a pas de profil type dans les différents publics qui marchent vers le nord de l'Espagne. Et nous avons fait le point sur les hébergements qui existent tout au long des différentes voies. Enfin, nous avons étudié le lien entre la spiritualité, la foi et la marche. Aujourd'hui, quelques bons conseils pour se préparer physiquement, mentalement et spirituellement à faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Peut-on partir sans préparation spécifique ? C'est ce qu'a fait Laurence Lacour, éditrice et anciennement journaliste. Elle nous raconte.
La première fois, c'était en 98. Je suis partie sur un coup de tête, mais vraiment un coup de tête. Je ne me suis pas préparée. J'avais un peu l'habitude de faire de la randonnée, donc j'ai ramassé le matériel dont je disposais. Voilà, je suis partie tout en achetant une parka la veille au soir, parce que je suis partie début du mois d'octobre. Je me disais que, évidemment, j'allais vers une saison froide et qu'il fallait quand même m'équiper un petit peu mieux. Donc je n'ai absolument rien fait de raisonné, ni de très raisonnable d'ailleurs, dans cette histoire. Et je n'avais pas une grande conscience non plus des nécessités de confort.
Faut pas sortir du bureau et puis se précipiter sur un chemin.
Léonard Tando, hospitalier sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle à Estaing dans l'Aveyron.
Faire une randonnée, c'est à la portée de quasiment tout le monde. Faire 20 ou 25 km tous les jours pendant des semaines avec un sac à dos de 10 ou 12 kg, c'est différent. Et puis c'est pas la Beauce, hein, le chemin du Puy-en-Velay notamment, il y a des dénivelés cumulés qui sont importants, ça descend, ça monte, etc., il y a des différences d'altitude. Il est bien quand même d'avoir une petite préparation physique au départ, avant, c'est-à-dire de faire des marches un petit peu plus soutenues qu'une simple randonnée, qu'une simple balade, en testant un petit peu le matériel et le sac à dos. Ceci dit, je pense qu'on peut très bien faire le chemin de Saint-Jacques avec prudence, notamment les 4-5 premiers jours, ne faire que des étapes inférieures à 20 km. Si on fait des petites étapes au départ de 15 km, 18, etc., ça correspond à un entraînement. Mais beaucoup de pèlerins se laissent entraîner par l'enthousiasme et font 22, 25 tout de suite et c'est là que ça commence à poser des problèmes pour certains d'entre eux. Et puis, sur le plan physique, mais tout le monde le dit, mais tout le monde ne le fait pas, c'est bien boire. Par temps très tempéré, c'est 1 litre ou 10 km. Et dès qu'il fait chaud, c'est 1 litre et demi ou 10 km, ce qui fait pour une étape 3 litres quand même. Et il y a peu de pèlerins qui arrivent à boire ces 3 litres parce qu'ils n'ont pas trop cette habitude. Et puis les fameux étirements, de préférence à chaud, quand on arrive à l'étape ou alors le matin quand on a marché une demi-heure, trois quarts d'heure, qu'on est un petit peu chauffé, on peut faire quelques minutes d'étirement, c'est très très bon pour les muscles et les tendons.
Léonard Tando est aussi médecin et en tant qu'hospitalier, il voit régulièrement des personnes faire des tendinites. Forcer son corps à aller trop vite est une erreur courante sur le chemin de Compostelle et c'est pour cela qu'il faut apprendre à s'écouter. Cela dit, Daniel Rago, pèlerin et président de l'association Web Compostella, nous explique que même avec des soucis de santé importants, on peut tenter l'aventure.
On peut partir à tout âge et dans toutes les conditions. J'ai marché aussi pendant plusieurs journées de suite avec un vieux monsieur qui avait des gros problèmes de jambes et qui s'arrêtait tous les 400 mètres pour reprendre sa respiration, cassé en deux par la douleur des rhumatismes, etc. Et il est arrivé sur place. Alors, il vaut mieux avoir une bonne forme physique, bien sûr. Personnellement, je me suis beaucoup entraîné avant de partir. Je m'explique, j'ai marché 2 fois 3 heures. Ceci étant, je ne suis pas un exemple.
La préparation, c'est aussi le matériel. Comment choisir son sac et ses chaussures ?
Concernant le matériel, j'ai que deux choses comme ça qui me viennent à l'esprit.
Dominique Daniel.
Un, c'est faire ses chaussures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas démarrer avec des chaussures qu'on n'a pas vraiment essayées. Ça, c'est vraiment très, très important. La deuxième chose, par rapport au sac, c'est bien sûr s'alléger. Alors, on n'y arrive pas forcément dès le départ. On a toujours la possibilité, comme le font un certain nombre de pèlerins, de rentrer dans une poste, de faire un paquet et de renvoyer les affaires à la maison. Ou de les laisser dans un lieu d'hébergement à disposition d'autres pèlerins. Donc la deuxième chose, c'est vraiment le sac, c'est le poids du sac.
Concernant le poids du sac, Laurence Lacour a retenu la leçon.
C'était ma première expérience et il a fallu que j'apprenne au fil du chemin à me délester. J'avais pris des choses en double. Pourquoi ? Je ne sais pas. Sans doute par angoisse ou par nécessité de prévoir, mais faussement, puisqu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir les choses en double. Et donc, par 2 fois ou 3 fois, j'ai renvoyé par la poste des choses que j'avais en trop. Voilà. Donc, j'ai appris à me délester et à ne garder que l'essentiel.
Le poids du sac, c'est tout un symbole, nous dit Daniel Rago.
Il y a une spiritualité du sac à dos. On part avec ses peurs, donc on charge le sac à dos en conséquence, et puis au fur et à mesure, il s'allège.
Justement, Gaëlle Delabrosse, journaliste au Pèlerin et auteur de plusieurs guides sur le chemin de Compostelle, nous livre ses conseils à ce sujet.
C'est vrai que c'est important de bien préparer ça, c'est-à-dire de ne pas acheter ses chaussures la veille, de les faire avant. Pour le sac à dos, eh ben, là c'est pareil, il y a des outils techniques qui permettent d'avoir des choses assez légères, y compris dans les services de toilette, tout ce qu'on transporte, enfin donc de ne pas partir comme moi je partais à 16 ans avec des sacs qui faisaient 18 kilos parfois, avec des armatures très lourdes. Et c'est vrai qu'on se cassait le dos. Maintenant, il y a des tentes légères, il y a des sacs à dos légers, voilà, il faut se renseigner, ça c'est sûr. Alors nous, on a fait sur le site du Pèlerin, le www.lepèlerin.com, on a donné des tas de conseils pratiques sur tout y est en fait, que mettre dans son sac, quoi choisir comme chaussettes, quoi choisir comme tente, que choisir comme sac, etc. Sur place, comment s'alimenter, enfin bref, ça facilite les choses et voilà, il y a des outils comme ça qui permettent de le faire. Il faut bien sûr pas partir comme ça, les mains dans les poches en se disant oh, oui, Dieu pourvoira. Non, il y a bien sûr une remise à la providence, mais il faut quand même faire un certain nombre de choses avant de partir.
Quoi mettre dans son sac ? Réponse avec Daniel Rago.
Un change, un pull de plus quand même, parce qu'il y a des fois où il fait pas chaud. Une bonne cape, parce qu'on marche aussi avec la pluie, le vent, le gel, etc. Et puis un petit guide spirituel. Il y en a qui d'excellents qui sont faits. On en trouve d'ailleurs sur le site de Web Compostela. Mais Gaëlle Delabrosse, journaliste du Pèlerin, a fait un guide spirituel qui est remarquable, que je conseille à chacun d'avoir dans sa poche. Et puis, évidemment, sa carte bancaire pour pouvoir assurer le paiement à chacune des haltes et vous donner des donatives. Bien sûr, avoir un minimum de trousse de secours, des bons compites pour soigner les ampoules, parce qu'on y est tous plus ou moins sujets. Et puis le téléphone portable fait beaucoup de choses. Il y a dessus tout ce qu'on veut, y compris des cartes, etc., etc. On dit souvent que le sac à dos ne doit pas dépasser 10% du poids de la personne. Sac à dos comprise et gourde comprise. Donc le sac à dos fait 1 kilo et la gourde fait 1 kilo. Ça diminue déjà.
S'il est donc important de préparer son départ sur le plan matériel, il ne faut pas non plus sous-estimer la difficulté mentale du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui, c'est difficile, c'est pas tous les jours un chemin de rose. La question n'est pas du tout sur le plan physique. Sur le plan physique, on prend son entraînement et puis il y a des haltes quand même suffisamment fréquentes. On marche tous les jours, mais si vraiment un jour on n'en peut plus, on s'arrête. Il y en a qui souffrent physiquement sur le chemin, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas la majorité. Par contre, ce qui est vraiment difficile, c'est le tête-à-tête avec soi-même. Au début, tout nouveau, tout beau, c'est magnifique, on s'émerveille, la nature, les petits oiseaux, etc. Et c'est vrai, je le dis dans le vrai sens du terme. Mais quand au fil des automatismes, la marche a pris son rythme, on est pris dans les automatismes, on est quand même déjà sujet à la fatigue, on voit moins les beautés qui nous entourent, et à ce moment-là, souvent remonte dans le mental, toutes les choses qui ont fait problème dans notre existence. les haines recuites, les pardons mal accordés, les soucis mal surmontés, enfin bon, toutes les choses négatives. Et à ce moment-là, mentalement, il faut savoir faire face. Et pour moi, ça a été ça, peut-être un peu difficile. Mais compensé par tellement d'émerveillements, d'échanges avec des pèlerins, dont on s'aperçoit au fur et à mesure que finalement, on ne vit pas les mêmes choses, mais on ressent souvent des choses assez équivalentes. Et ça fait beaucoup de bien d'écouter aussi le pèlerinage des autres. Ça nous aide à faire notre propre pèlerinage. Je crois que la question difficile, c'est la question mentale, beaucoup plus que la question physique.
Mentalement, les premières choses, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces randonnées lointaines et longues, c'est de conjurer un certain nombre de peurs qu'on peut avoir.
Léonard Tando.
Peur de ne pas y arriver, peur de caler, peur de ne pas trouver où se coucher, peur d'être agressé, etc. Il y a plein de peurs imaginaires, ou d'être agressé dans un bois, ou des choses comme ça. Il y a des tas d'éléments comme ça de peur qu'il faut arriver à conjurer. Et puis le reste, c'est la confiance, quoi. Il faut rentrer dans cette confiance. Voilà. Si le Seigneur ou par Saint-Jacques nous a appelés à faire ce pèlerinage, on peut faire confiance totalement. Et c'est la meilleure façon d'entreprendre ce pèlerinage et de se préparer mentalement et spirituellement. Et puis, on peut acquérir un petit guide spirituel du marcheur ou du pèlerin.
À ce propos, j'ai demandé à Léonard Tando comment se préparer mentalement à faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
La meilleure façon de se préparer mentalement ou psychologiquement, c'est de rencontrer des anciens pèlerins et de leur demander un peu comment ça se passe et bénéficier de leur expérience. Bon, ça peut être à double tranchant, ça dépend comment ils ont envisagé le pèlerinage, et puis le pèlerinage de l'un ne sera pas forcément le pèlerinage de l'autre. Il y a des associations de pèlerins un peu dans toutes les régions, dans beaucoup de départements, donc on peut se rendre dans ces permanences et écouter les conseils des anciens. Bon, il y a déjà toute la méconnaissance du pèlerinage, la marche longue, puis du pèlerinage aussi. Donc c'est des choses qu'on peut acquérir comme ça par le témoignage des autres. Alors ça peut être des rencontres comme ça dans des permanences d'associations, mais ça peut être aussi en regardant des films ou en lisant des témoignages écrits ou la radio. Donc il y a beaucoup de choses de possibles, mais il y a même trop de choses à la limite. Il vaut mieux, je pense, trouver la personne qui nous convient, qui convient à notre esprit et qui a fait déjà le pèlerinage et qui va nous confier les choses importantes.
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est donc apprendre à lâcher prise, comme nous l'explique Laurence Lacour.
Une préparation longue et très minutieuse, c'est pas mal, mais il ne faut pas seulement que ce soit matériel, il faut que ça relève aussi de ce que l'on projette sur ce chemin qui va être long, qui va avoir des difficultés, qui va être merveilleux. Et voilà.
Il faut laisser une place à l'imprévu aussi, c'est ça que vous dites?
Alors, il faut laisser une place à l'imprévu, ça c'est évident, parce qu'en fait, ça n'est qu'un chemin d'imprévu, pratiquement. À part le point de départ et le point d'arrivée, on n'est pas sûr de grand-chose entre les deux. Dans mes expériences, évidemment, on ne peut rien prévoir de son logement le soir, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas réserver. Certains le font, je le sais, peut-être sur 8 jours, 15 jours, mais c'est absolument intenable sur 2 mois. On ne peut pas prévoir, mais il ne faut pas prévoir surtout. Il faut laisser les choses venir à soi telles qu'elles se présentent, à la fois dans les rencontres, dans les aléas climatiques, et il faut apprendre à vivre avec cela. Si on est tendu ou crispé sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, si on a des choses comme ça très arrêtées qui ressemblent à ce que l'on vit dans sa vie de tous les jours, qui est fort différente, ça ne va pas. Il faut effectivement une part d'imprévu, de rencontres, d'inattendus, et il faut les savourer, même si elles ne sont pas toujours faciles ou toujours simples. Je me souviens par exemple de m'être perdu. J'ai fini la journée à marcher dans la forêt la nuit, ce que je n'avais absolument pas prévu ni vécu auparavant. C'est une expérience très particulière. En plus, c'était en pente, donc c'était un petit peu risqué. Donc ça a été une heure ou deux très fortes, mais qui m'ont appris beaucoup de choses sur la maîtrise de soi, la maîtrise de sa peur, ses angoisses, l'art de respirer, de se détendre, n'avoir pas peur d'un oui ou d'un non, ou d'un craquement. Enfin voilà, je l'avais pas prévu, mais 20 ans plus tard, je m'en souviens comme d'une expérience extrêmement positive, même si sur le moment, elle m'a un petit peu angoissée.
C'est la conclusion de cet épisode consacré à la préparation de son pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Avant de partir, préparez vos chaussures, préparez votre sac, mais surtout, préparez-vous à lâcher prise et à apprendre sur vous-même comme jamais. Le premier pas est toujours le plus dur, alors n'hésitez plus. Merci à Laurence Lacour, à Léonard Tandeau, à Daniel Rago, à Dominique Daniel et à Gaëlle Delabrosse pour tous leurs conseils et le temps passé à répondre à mes questions. Pour préparer votre voyage, il existe une documentation très riche sur Internet. L'achat d'un guide est une bonne idée. Sachez que Gaëlle Delabrosse vient de publier le guide spirituel de la voie du Puy-en-Velay aux éditions Salvatore. Toujours aux éditions Salvatore, vous lirez aussi l'ouvrage « À Compostelle » qui regroupe une trentaine de témoignages de pèlerins en tout genre. Témoins du chemin, c'est une émission dont le générique a été composé et réalisé par Alex Dirx. Dans le prochain épisode, je vous proposerai de découvrir l'alchimie si particulière du chemin. Alors, comme disent les pèlerins, « Ultreya et Suseya ».